se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France. CM2. Qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessoux.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Et cette émission essaie aussi de prendre le temps de ne pas aller trop vite. Donc CO2 mon amour avec aujourd'hui Lynn Vincaron et Kamel Salifou à la technique et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza. C'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, petite humeur, plus belle l'écologie, oui, plus belle l'écologie pour ceux d'entre vous, chers amis, qui avaient raté les derniers épisodes. Tenez, je vais vous faire un petit résumé de la semaine. À la une de l'actualité, on a eu les gaz de schiste, toujours, le documentaire Gasland diffusé sur Canal+, l'État de New York qui décrète un moratoire, idem au Québec, et de nombreuses manifestations en France ce week-end, Marseille, Lyon, Cahors, Meaux, Longue-Saulnier et Donzère. Donzère aujourd'hui sur les terres riches en hydrocarbures de notre ministre de l'Énergie, Éric Besson. Alors, interdira pas. Lundi dernier, rétro-prédalage à tous les étages du gouvernement. Rappelez-vous, les permis d'exploration que Jean-Louis Borloo avait imprudemment signés l'année dernière, alors qu'il était encore ministre, oui. Cette semaine, c'était à qui les annulerait le premier. On attendait le rapport commandé par Nathalie Kosciusko-Morizet pour la fin mai. Éric Besson met la pression et nous annonce que les députés plancheront sur l'interdiction de l'exploration en urgence début mai. Monsieur de Margerie, donc le patron à l'air bon enfant de Total, bah forcément, n'est pas très content. Ça, c'était mardi. Il nous annonce d'un air grave que le prix du litre de super dépassera les 2 euros. La vraie question, nous dit-il, c'est quand. L'avenir, d'ailleurs, lui donnera un jour raison. Et on comprend que monsieur de Margerie s'inquiète pour sa petite entreprise qui n'a fait, rappelons-le, que 10,5 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière et qui ne paye quasiment pas d'impôts sur les sociétés en France. Mercredi, dans la série On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est Nicolas Hulot, donc en missionnaire, qui s'y colle parce que notre petite planète le vaut bien. Alors il connaît le risque, hein, une idole qui se met dans le monde réel, eh bien, perd de son aura et devient nu. Pour lui couper l'herbe sous le pied, François Fillon annonce aussitôt l'annulation de tous les permis d'exploration d'hydrocarbures non conventionnels, comme on dit, en langue de bois, certifié responsable. Jeudi, bah, c'était un peu relâche, jeudi. Vendredi, c'est au tour de M. Mestrayet de GDF Suez, donc encore un qu'on risque de priver de gaz de schiste. Alors il passe un coup de fil à M. Borten-Moe, qui est le ministre du pétrole et de l'énergie de Norvège, et obtient quand même un joli lot de consolation. Hein. 3 licences de forage entre la mer de Norvège et la mer de Barents, une zone qui regorge de gaz et de pétrole. Alors songez, rien que dans la région, on nous promet de pomper dans les prochaines années des centaines de millions de barils équivalent pétrole. Une zone particulièrement poissonneuse aussi, donc fragile. L'avantage avec les poissons de la mer de Barents, c'est qu'ils ne voteront pas en 2012. Quand on vous disait, hein, plus belle l'écologie, qu'il était trop fort, ils étaient trop forts les scénaristes actuellement. Allez, aujourd'hui, mon invité s'appelle Gilles Béraud. Il est président du comité 21. On va voir ce qu'est le comité 21, président aussi de l'association Communication et Information pour le développement durable ou soutenable. Bonjour Gilles Béraud.
Bonjour.
Alors Gilles Béraud, comité 21, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'on va parler aussi des agendas 21?
Il y a un lien effectivement direct parce que le comité 21 a été créé il y a maintenant 16 ans suite au sommet de la Terre de Rio. Mmh. Le sommet de la Terre de Rio, c'est le sommet des chefs d'État qui a décidé justement de mettre en œuvre une méthodologie sur les territoires, une démarche, c'est l'agenda 21. La particularité et la rupture de l'agenda 21, c'est que l'agenda 21, c'est une feuille de route qu'on décide ensemble. Et qu'on
met avec les citoyens.
Avec les citoyens, mais aussi avec les entreprises, avec l'ensemble des collectivités locales concernées, avec tous ceux, ce qu'on appelle les parties prenantes dans le développement durable, tous ceux qui sont intéressés à leur vie de leur territoire. Donc on décide ensemble et ensuite on met en œuvre ensemble. Et ça, c'est quand même une rupture parce que la tradition politique, c'est plutôt je fais confiance à un élu pour 5 ou 6 ans parce que je pense qu'il a une vision meilleure que la mienne. Non, je crois que c'est fini ça. Maintenant, c'est on fait les choses ensemble en avançant et autour de tous les sujets évidemment qu'on connaît bien dans cette émission. C'est les déchets, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est le bâtiment, c'est aussi l'éducation. Et d'ailleurs, au comité 21, on a beaucoup travaillé sur les agendas 21 scolaires parce qu'on pense que la gouvernance, comme on dit, Bah, ça s'apprend à l'école.
Voilà, ça s'apprend très très tôt. Et donc, on va cliquer davantage aussi aujourd'hui sur biodiversité et Agenda 21. Donc, des communes, des agglomérations, des gens donc, qui ont misé sur cette biodiversité. Donc, ce sera, on va dire, le thème aujourd'hui de cette émission. Mais nous allons retrouver tout de suite Jean-Marie Pelt. Ah, là, on va rester un peu quand même dans le domaine du nucléaire. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Bon, vous n'êtes pas radioactif, a priori, pas trop.
Non, pas bon, du tout.
Très bien. Et on va donc ouvrir cette séquence avec un très joli titre. Lequel ?
Les centrales ne sont pas éternelles.
C'est très beau. Donc on va parler du démantèlement des centrales nucléaires. Nous avons commencé en France, nous sommes dans le Finistère.
Oui.
Plutôt nous avions.
Nous avions, oui. Ouais. Alors, en fait, il y a 6 centrales nucléaires qu'on est en train de démanteler en France et qui correspondent à des filières qui n'ont pas eu, disons, un avenir industriel. À partir de combien de temps de fonctionnement va-t-on démanteler une centrale ?
Alors, 30 ans minimum.
Alors, c'est 30 ans minimum. À Fessenheim, la centrale a 30 ans. Dieu sait qu'il y a de l'agitation pour qu'on l'arrête tout de suite. La position de l'EDF, c'est qu'il faut aller au minimum à 40 ans. Il faut faire une vérification à fond tous les 10 ans. Et ça pourrait peut-être aller jusqu'à 60 ans. Donc, il y a une fourchette. Une fourchette, disons, entre 30 et 60 ans. 60 ans, c'est certainement un maximum. Après quoi, la centrale est évidemment plus en état de fonctionner.
Il faut préciser que c'est fait avec beaucoup, beaucoup de minutie. Hein. Lorsqu'on décide de passer de 30 à 40 ans, je veux dire que ce n'est pas laissé au hasard. Hein.
Non, non, c'est très compliqué. Oui, tout ce qui touche au nucléaire est très compliqué. Et ça, en l'occurrence, c'est très compliqué. Alors, actuellement, il faut bien se souvenir, parce que ce n'est pas médiatisé du tout, qu'on est en train de démanteler le surrégénérateur de Creys-Malville, le Super Phénix, dont on a énormément parlé, parce que c'était une nouvelle génération de centrales, dont on parlait il y a 20 ou 30 ans, qui devait produire plus de combustible radioactif qu'elle n'en utilisait pour fonctionner. Donc c'était la poule aux œufs d'or, si vous voulez. Et puis ça n'a pas marché.
Et puis ça a été un enjeu politique lorsque Dominique Voynet est arrivé aussi au gouvernement, qu'il y a eu de la part de Jospin, on abandonne donc Super Phénix, ainsi que le canal Rhin-Rhône.
Oui.
Et puis, bah, en gros, tu nous fiches la paix sur le reste.
Ça a été ça, donc tout à fait. Donc on a abandonné Super Phénix et maintenant on est en train de démanteler. Mais personne n'en parle, c'est très curieux et c'est en train de se faire. Oui. On est en train aussi de démanteler Brennilis. C'est une centrale qui est dans le Finistère, qui a démarré en 1967, qui a été arrêté en 1985, qui fonctionnait à l'eau lourde, pas à l'eau de Lourdes, à l'eau lourde, hein, l'eau de Lourdes n'est pas utilisée.
Pas de miracle dans le nucléaire.
Il n'y a pas de miracle. Et ce démantèlement est en cours. Alors, j'ai lu plusieurs papiers. C'est étonnant parce que c'est un chantier pharaonique pour fabriquer une centrale nucléaire. Oui. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est que c'était aussi un chantier pharaonique pour la démanteler, parce qu'il y a
des pharaoniques,
parce qu'il y a des éléments radioactifs partout, donc il faut faire très très attention, et du point de vue de la sûreté, ça demande des précautions considérables qui ont été définies clairement par la loi de 2006, qui explique comment il faut s'y prendre pour démanteler, et qui exige qu'il y ait une enquête publique pour déconstruire, comme il y a une enquête publique pour en construire. Et comme on avait commencé à démanteler
avant,
du coup on a dû arrêter le démantèlement, et actuellement on est dans une période où on refait de nouveau une enquête pour savoir si on peut démanteler. Mais comme c'est en cours de démantèlement déjà, alors il y a une quarantaine d'ouvriers qui sont l'arme sous le pied et qui surveillent le chantier, parce qu'il ne faudrait pas évidemment qu'on aille s'emparer de déchets radioactifs, de ce qu'on pourrait en faire. Et puis, quand l'opération reprendra, on va continuer à travailler. Alors, question, pendant combien de temps, à votre avis ? Ça, c'est une question très intéressante. On dit 25 ans. Alors, j'ai cru que c'était une erreur.
Mais c'est bon pour l'emploi, ça ?
C'est excellent pour l'emploi, oui, c'est tout à fait bon. Il faut plus de temps pour démanteler une centrale que pour la construire. Et ce chantier va encore durer probablement une quinzaine, une vingtaine d'années, puisqu'il a commencé déjà il y a un bon bout de temps. Qu'est-ce qu'on fait après des produits radioactifs? Il y a 50 tonnes de déchets très radioactifs, de déchets à longue vie, déchets dangereux. Alors, il est prévu qu'on les mette à la centrale du Bugey, une centrale de l'Ain, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Et on n'a pas décidé encore quel sera finalement le stockage définitif des déchets radioactifs à longue vie.
On sent bien que le département de la Meuse va être gagnant.
Ça sera Bure, probablement, dans la Meuse. Ouais. Mais ça n'est pas officiellement décidé. Et c'est comme ça que les choses vont se terminer.
C'est-à-dire que l'endroit est désert et relativement docile. Et géologiquement intéressant.
Oui, docile et probablement géologiquement intéressant. Je vois les deux. Oui. parce qu'il y a, il y a d'autres sites qui ont été sociologiquement pas abordables, non, vu la forte réaction que ça produit quand on dit on va mettre des déchets nucléaires chez vous. Oui, j'ai pris cet exemple parce que ça donne tout de même à réfléchir sur le nucléaire. C'est quand même une technologie extrêmement sophistiquée. Alors, on va donner un coup de chapeau, parce qu'on ne le fait pas souvent, aux ingénieurs qui mènent le nucléaire. Et c'est remarquable ce qu'ils font. Ils assurent quand même une sécurité, une sûreté, mais ça n'empêche que c'est une technologie extrêmement lourde, très difficile à exporter, finalement. Et puis, malheureusement, c'est une technologie qui peut être dévoyée, comme on le voit actuellement pour l'affaire de l'Iran, parce que les déchets radioactifs peuvent servir à faire des bombes. Donc,
il faut des démocraties stables.
Oui, il faut des démocraties stables, bien entendu. Il ne faut pas mettre une centrale nucléaire chez M. Kadhafi, c'est une très mauvaise idée. C'est bizarre, je ne pense pas que le nucléaire a un très grand avenir au niveau de l'humanité. Je pense que c'est un passage.
Et là, vous le mettez en perspective.
Oui, en perspective, et qu'on ira vers d'autres formes d'énergie, probablement, quand ce passage actuel aux énergies renouvelables aura pris de la consistance, de la force. C'est encore très jeune, tout ça. Mais je n'ai pas le sentiment que le nucléaire va remplacer le pétrole.
Vous déprimez la moitié du CEA qui nous écoute. Mais il y en a aussi qui sont un peu comme vous, même au CEA.
Oui, c'est trop sophistiqué, c'est trop lourd. Enfin, je vois cette centrale de Finlande qui a pris, je crois que c'est 3 ans de retard. C'est trop technologiquement sophistiqué.
Alors, on va dire que c'est une tête de série, hein, c'était la première.
C'est une tête de série. Et puis d'ailleurs, on va dire aussi que c'est une série, les EPR, qui sont des réacteurs de forte taille, ouais, et que les pays trouvent qu'ils sont trop gros, qu'il y a plusieurs pays qui maintenant nous les retoquent en disant c'est trop gros.
C'est pour ça que la Corée du Sud a aussi placé...
Bien sûr, pour moins cher. Ouais. Mais avec moins de sécurité aussi. Donc, oui, bon, la sécurité fait que ça coûte très cher. Ouais. Et si on n'a pas l'idée de faire des économies sur la sécurité, c'est qu'on prend des risques. On ne peut pas prendre de risques non plus. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, le nucléaire. Ça paraît très simple. Les politiques parlent de ça avec énergie nucléaire, naturellement. Mais c'est très compliqué.
Jean-Marie, pourtant, donc, ça fait partie de notre industrie lourde. On n'en a malheureusement pas tant que ça. Et notre président essaye, il fait son boulot de VRP par rapport au nucléaire.
Oui, il le fait avec beaucoup de conscience, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Et c'est une de ses grandes idées. Il a deux grandes idées, le président, c'est le nucléaire à fond et pas d'impôt pour les riches. C'est en gros les deux grandes idées qui dominent le système. Non mais c'est vrai, vous riez, mais c'est vrai. Bon, alors, je trouve ça
et
drôle.
Et de la sécurité aussi, et pour les
et
centrales.
Et la sécurité, et la sécurité.
Et aussi pour les centrales.
Aussi pour les centrales. Ouais. Alors, je suis frappé parce que quand il fait un voyage, il emmène avec lui les chefs d'entreprise, que je trouve très bien, ouais, puis on signe des contrats. Je vous défie de me trouver un voyage où on ne signe pas un contrat sur le nucléaire. Alors, c'est pas, on ne vend pas une centrale, on fait un contrat pour commencer à collaborer, pour préparer le terrain. Et j'ai noté que le seul pays qu'il a visité où on n'a pas eu de contrat pour le nucléaire, c'est le Vatican. Oui. Le pape n'a pas signé un contrat pour le nucléaire parce qu'il n'y a pas de place pour mettre une centrale dans le jardin du Vatican. Et que le pape a mis des panneaux solaires sur tous les toits du Vatican, parce qu'il est très écolo. Oui. Parce que c'est un Allemand. Et que la sensibilité allemande est plus écolo que la sensibilité française.
Donc, une énergie solaire et spirituelle.
Et spirituelle, absolument.
Ouais. Bon, merci à vous Jean-Marie Pelt, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou sur France Inter, tous les samedis à partir de 14h.
Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait. À la ferme au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les mûres en bas, dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison. Et que dans ce coin de Cambrousse, il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas, dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On
on arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mersel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifort qui libéraient la French County et en bas dans la ruelle. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bouille de Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous égouttaient leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle du monde. Que ne demeurent les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels, les chrysanthèmes, des boutons d'or. Les deux se ramassent à l'appel en bas, dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts.
Un Hubert Félix Yeffen, toujours inspiré sur France Inter, la ruelle des morts. Nous étions dans le Jura avec lui. Un jour, on va lui rendre visite dans sa forêt de chaux, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Nous sommes en compagnie de Gilles Béraud, président de ce comité 21. On va parler donc de territoire, on va parler de maillage de territoire et aussi on va parler quand même d'envie. Parce qu'un agenda 21, au départ, c'est ça. C'est-à-dire que dans notre merveilleuse morosité donc, actuelle, qu'est-ce que permet un agenda 21 entre les individus? Alors, donnez-nous un peu le mode d'emploi. On rappelle que ça concerne aussi bien des communes, des villes, des agglomérations, des collectivités, des entreprises. Pourquoi pas un agenda 21 aussi donc scolaire, comme vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Je crois que le point de départ, c'est quand même l'envie. Dans ces affaires, quand on parle de développement durable d'environnement, il y a toujours une dimension qui est collective. Il y a deux façons d'aborder les choses. Si on va à Shanghai aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a quasiment plus de vélos moteurs thermiques avec des moteurs. C'est électrique. Mais évidemment, parce qu'ils n'en vendent plus. Et si vous allez le faire réparer, votre vieux, j'allais dire votre vieille mobylette, mais ça ne s'appelle pas mobylette là-bas, le réparateur, il n'a pas le droit de vous la laisser après si elle n'a pas été réparée. Donc ça, c'est une approche. S'il n'est pas devenu électrique, pardon. C'est pas du tout celle auquel je crois. Je crois que fondamentalement, il faut faire émerger l'envie de faire ensemble. Ce n'est pas une collectivité qui peut faire tout seul. Ce n'est pas une mairie. Une mairie, elle a des parts de compétences, elle a des moyens, mais elle ne peut pas tout. Ce n'est pas l'entreprise qui est sur le territoire, ce n'est pas nous, chacun, citoyen, ce n'est pas les associations. Non, je crois que c'est en étant capable de se mettre autour de la table. Et c'est peut-être un des choses qui me gênent le plus, moi, dans le nucléaire, c'est que ça n'a pas été fait avec de la gouvernance, cette affaire. Moi, je suis prêt à prendre des risques, évidemment.
À condition qu'ils soient partagés, acceptés, que les gens soient informés.
Et que, évidemment, ouais, tous les gens soient informés. Et à partir du moment où ce n'est pas le cas, ça a été le cas du nucléaire, mais ça a été le cas de beaucoup de décisions publiques, ben je crois que ça ne marche pas. Et on voit bien ce qui se passe au niveau de la route aujourd'hui. Où il suffit qu'il y a un petit boîtier électronique un peu cher, d'ailleurs, qui crée une petite fracture sociale dans cette affaire. Mais bon, d'un seul coup, on revoit des gens qui roulent très vite sur la route. Non, ça n'a pas changé les comportements. Je crois que le changement de comportement, ça passe par du désir, ça passe par du partage. Donc, ça passe par être capable de dire, mais oui, toutes les idées sont bonnes. Et ça, il y a une vraie rupture. C'est compliqué d'être un élu d'un agenda 21. Il ne faut pas croire. La transparence, c'est plus compliqué que le fait de décider tout seul dans son coin et de faire une note et dire aux gens, faites. Non, on est plus là. Et c'est ça qui me rend, moi, complètement optimiste. C'est qu'aujourd'hui, il y a 900 agendas 21 en France, alors de niveaux complètement différents, qui s'approprient. Au départ, l'agenda 21, c'est on décide de faire, on a envie de faire ensemble, et d'ailleurs, on l'a bien vu dans les dernières élections municipales, et ensuite, on choisit sur quoi on travaille. Alors, il y en a qui sont plus sur le climat, d'autres qui sont plus sur le déchet, donc d'autres plus sur l'éducation. Je crois que le chantier est absolument énorme sur les territoires.
Parce qu'en fait, c'est une boîte à idées. C'est-à-dire que tout le monde se réunit, bien sûr les élus, mais avant tout, j'allais dire, les citoyens. Et ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, c'est une prise de pouvoir des gens presque sur eux-mêmes.
Ben, je crois qu'à un moment donné...
Pour réinvestir ce champ-là à travers cet agenda 21.
Quand on parle de biodiversité, la biodiversité, ça commence par soi-même. Si on oublie que le corps fait partie de la biodiversité, on a un problème. La protection de l'environnement, ça commence par son propre corps. Et je crois que si on n'a pas compris ça, on va avoir beaucoup de mal à protéger ce qu'on a autour de soi. Donc, c'est une prise de conscience, c'est regarder autour de soi. Vous savez, le côté global, local, etc. Mais c'est vraiment ça, c'est d'être capable de dire, ah bah tiens, là, il y a un problème, là, il y a un problème d'une plante, là, il y a un déchet. Et c'est pas de dire la collectivité, elle a pas fait. C'est pas de dire l'entreprise, c'est pas bien. C'est le cas. Ça arrive, évidemment, il n'y a pas que des gentils sur Terre. Enfin, je suis peut-être un peu angélique par nature, mais je crois que ça rend optimiste face aux enjeux qu'on traverse en ce moment.
Alors, Gilles Béraud, est-ce que quand même ça a une valeur juridique ou pas, l'agenda 21 ?
L'agenda 21 n'a aucune valeur juridique en soi. Je crois que c'est avant tout une démarche. Et c'est important que ce ne soit pas juridique, justement, que ça reste souple. Parce que si l'agenda 21 se donne des objectifs, c'est bien. Mais si à un moment donné, considère que si c'est un objectif très précis n'est pas atteint, c'est un échec, on n'y arrivera pas. Aucun d'entre nous, raisonnablement aujourd'hui, peut dire « dans 5 ans, je vais vivre de telle et telle façon. J'aurai envie de vivre à tel endroit. Je ferai tel métier. » Il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé depuis 92, donc le sommet de la Terre de Rio, ça s'appelle l'Internet. L'Internet, en 10 ans, ça a transformé complètement notre relation aux autres, notre façon de travailler, notre façon de concevoir la démocratie. Si on avait fait un objectif, on avait défini un objectif très précis il y a 10 ans en disant « je réussirai mon agenda 21 en 2011 ou 2012 avec tel résultat », on n'y serait pas arrivé. Mmh. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le monde. Non, je crois qu'on est en train de se dire quelle valeur on partage. Donc, je crois que c'est vraiment le point de départ, c'est quelle valeur on partage. Est-ce qu'on a envie de protéger cette planète? Est-ce qu'on a envie d'être dans une équité sociale? Est-ce qu'on a envie d'alléger nos vies? Est-ce qu'on a envie de s'intéresser plus à la culture? Est-ce qu'on a envie, voilà, de quoi on a envie ensemble? Et après, on met en place la feuille de route, l'outil permanent qui nous permet ensemble d'agir. Je crois que c'est une question de faire ensemble, cette histoire d'agenda 21.
Alors Gilles Béraud, on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à ces communes qui ont parié sur la biodiversité. Et moi, je vous propose de vous emmener dans une toute petite commune qui s'appelle Mélé. On est dans l'Ille-et-Vilaine, on est au nord-est de l'Ille-et-Vilaine, donc bien sûr nous sommes en Bretagne. Et on va aller dans ce bourg-jardin pour rencontrer Claude Duval, qui a donc construit lui aussi son agenda 21, qui a été récompensé cette année avec les rubans donc, de ce développement durable. Donc il a reçu un prix, et ça c'est assez enthousiasmant parce que l'exemplarité ça marche quand même bien. Je fais parce que tu fais, parce que nous faisons, et écouter donc au sein de cette petite commune ce qu'a fait Claude Duval, mais il l'a fait bien sûr avec la population en misant sur la biodiversité.
On est tombé dans la biodiversité il y a plus de 30 ans parce que le remembrement à Mélé a été fait en 1969. Donc à cette époque-là, on rasait tout. Ce n'est pas une critique. Tout était mis par terre. En clé de lecture du paysage à Mélé, pour un visiteur, les vieux arbres, c'est là où il y a du granit, on ne pouvait rien faire dessous. Et 10 ans après, on s'est rendu compte que ça faisait quand même des dégâts, y compris sur la biodiversité. Le gibier n'était plus là. C'est du très concret pour nous. Hein. Tiens, il n'y a plus de lièvre, comment ça se fait? Il y avait du vent, il y avait des choses comme ça. Et un tout petit groupe, à l'époque, dès 1976, s'est dit, il faut qu'on replante. Donc vraiment, et on a fait prendre la mayonnaise à 4 ou 5 à l'époque. Et depuis, ça continue jusqu'à aujourd'hui, pour avoir planté quelques milliers d'arbres en 1976. C'est pas très à la mode. Et progressivement, ceux qui étaient un peu réticents, ils sont venus. Ils ont vu les arbres grandir. Et progressivement, on est arrivé à 70 000 arbres plantés aujourd'hui, avec une filière bois installée. Et puis, bah, les petits écureuils sont là, les lièvres sont là, les papillons sont là. Ça se voit, l'évaluation est toute simple à faire. Il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux.
Un bourg-jardin, qu'est-ce que c'est ?
C'est un peu l'opposé des géraniums. Un bourg-jardin, c'est faire rentrer la campagne dans le bourg, vraiment dedans. Ouais. Partout, il n'y a plus besoin de goudron, on l'enlève. On met de la terre végétale qu'on va chercher à la campagne. Et dedans, au lieu de mettre que des fleurs, on a mis des arbres. On a 100 frênes qui vont grandir, donc ça va évoluer pour des années qui viennent. On a mis des grands arbres, on a mis des graminées, on a mis des vivaces, des annuelles. Des rampantes aussi, du paillage naturel. Et avec ça, le bourg va continuer d'évoluer sans que l'homme intervienne beaucoup. Un peu de taille, peu d'arrosage dans notre démarche vraiment de développement durable. On limite énormément l'arrosage. On est sur zéro produit phyto sur le traitement. Tout est fait manuellement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on y arrive progressivement.
Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Faudrait venir l'été. Est-ce que tu peux nous raconter que tu te sens bien dans ce trou ?
Et pourquoi pas ? Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi ?
Ah oui.
Ah merde alors. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Alors, on fait attention aussi à son PLU, hein, donc son plan local d'urbanisme. Parce qu'en fait, vous dites que vous arrivez à vous agrandir, mais sans forcément prendre sur la terre.
Sur des territoires comme les nôtres, donc on est un peu à l'écart du grand développement, on n'a pas une pression, comme on dit en ville, foncière très forte. Et donc, notre objectif, c'est de renouveler la population, parce que c'est idiot de penser qu'on va développer énormément partout en France les communes rurales. Il faut qu'on les qualifie. Et pour nous, pour maintenir du lien social, il nous faut renouveler notre population. C'est suffisant parce qu'on entraîne des déplacements. Enfin, je ne vais pas entrer dans les débats, mais on entraîne pour demain des déplacements importants pour des gens qui, très souvent, ont des petits revenus, qui, dans 20 ans, n'auront plus les moyens de se payer de l'essence pour venir chez nous. Et s'ils ont acheté une maison à bas prix parce que le terrain n'était pas cher, on ne leur aura pas rendu service. Donc, mais vraiment, on les a plantés. Et pour nous, la priorité, c'est de réutiliser le bâti existant. Donc les terres sont consommées. Il y a plein de granges qui se libèrent dans les cœurs de bourg, des maisons qui deviennent vacantes, des hangars qu'il faut peut-être démolir pour refaire une maison neuve à cet endroit-là. Mais on n'aura pas consommé un mètre carré de terre agricole. Et au niveau de prix de revient, il y a un vaste chantier à ouvrir là-dessus partout en France. Mais vraiment partout, ça j'en suis vraiment convaincu, un vaste chantier à ouvrir sur la réutilisation du bâti existant. Quand la maison est belle, on met un cahier de prescription architecturale pour qu'elle reste belle et que la qualité de la vie soit permanente. Dans tous les cas, on y met une forte dose de réduction de la consommation énergétique, des éco-matériaux dans la restauration. Et dans tous les cas, on copie ce qu'a fait la commune dans son bon jardin pour dire les abords, c'est pas que de l'enrobé. C'est de la biodiversité, c'est du végétal. Partout, vous pouvez en mettre et c'est très sain pour vos murs.
Alors, je sais que c'est une petite commune, donc on peut arriver peut-être à convaincre les gens, mais qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez pris la biodiversité, je dirais, un peu comme étendard et comme fil conducteur ?
Le regard des habitants change progressivement, comme je l'ai dit en début d'entretien. Quand les arbres grandissent, personne n'y reste insensible. Au début, on est pris pour un fou comme un petit arbre de 30 cm dans le sol et que parfois il est bouffé par le premier lièvre venu quand il en reste. Et c'est pas toujours simple à expliquer, mais au bout de 5 ans, l'effet commence à se faire sentir. L'arbre fait 5-6 mètres de haut, il commence à faire de l'ombre, il commence à produire des fruits. Et aujourd'hui, on est à 35 ans de recul, et je peux vous dire, avec 35 ans, je ne peux plus trouver quelqu'un qui puisse critiquer ça, même les chasseurs. Aujourd'hui, il y a le gibier de nouveau arrivé. Donc tout le monde y retrouve son compte. Le randonneur qui vient sur notre circuit d'interprétation, il retrouve son compte parce qu'on l'a expliqué par des panneaux très simples. C'est des clés de lecture du paysage, de bonnes pratiques agricoles. Je suis agriculteur, moi, je suis fier des bonnes pratiques agricoles, du monde agricole, et il y en a, elles sont de plus en plus nombreuses.
Voilà, donc quelqu'un quand même d'assez stimulant, hein. Donc Claude Duval, je le rappelle, donc, maire de cette commune de Mélé. Il faut bien sûr des gens charismatiques, des gens qui y croient, et puis après, on change le regard, on retourne le gant, Gilles Béraud, c'est ça aussi, c'est de se dire, on va pas céder bien sûr à la différence, mais encore moins à la résignation. Donc c'est possible de changer, il y est arrivé cet homme-là, 700 habitants et très très peu de moyens, quoi.
Je crois que les exemples sont effectivement de plus en plus nombreux et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Maintenant, on est face à une difficulté, c'est de massifier les choses. Enfin, le terme n'est pas très élégant, mais on a besoin de motiver un peu pour faire comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter, quoi. Aujourd'hui, on a réussi à démontrer que ça pouvait marcher. Je crois que si on essaye de phaser un peu ces histoires de développement durable sur les territoires, en 19 ans, on a réussi à démontrer qu'on avait des exemples extraordinaire de démocratie participative, de gouvernance, sur les déchets. Voilà. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête d'aller voir, vous savez, ces éco-quartiers à Bedzen et Fribourg, en Fribourg, et qu'on aille en voir beaucoup en région parisienne et dans toutes les régions françaises. Parce que là, maintenant, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que on va tellement vite en termes de développement d'activité, parce qu'on parle de plus en plus de développement durable, mais la réalité, c'est que la population continue à augmenter, c'est que les modes de vie, globalement, en valeur absolue, continuent à consommer plus d'énergie, à plus polluer. Donc, on a démontré que ça marche. Maintenant, hop, il faut enclencher les choses et il faut convaincre aussi parfois nos élus qu'il ne faut pas s'arrêter à avoir une belle chose qu'on peut montrer, mais que non, il faut intervenir sur un ensemble de plein de petites choses qui, côte à côte, constituent un écosystème de démarches de développement durable. Et l'ensemble, évidemment, ça constitue l'agenda 21 dont on fait la promotion au comité 21. Mais ça, c'est pas un axe. Il n'y a pas une solution. C'est comme l'énergie. On sait très bien qu'il n'y a pas de solution miraculeuse. On ne sortira pas du nucléaire avec une solution. Il n'y a pas une énergie qui va nous permettre de tout régler. Non, c'est une démarche d'économie, c'est des énergies renouvelables, c'est tout un ensemble de choses. Et je crois que c'est vraiment ça qui doit aussi évoluer dans la gestion municipale. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas envie non plus de dire « Oh, regardez, les élus, ils font ça, ils ne font pas bien. » Non, je crois que j'ai plutôt envie de dire comment on fait justement pour que c'est un écosystème de gens qui, ensemble, puissent se prendre en main, un « empowerment », on dirait en anglais, prendre le pouvoir sur nos vies. Je crois que c'est ça l'enjeu. Il y a quelques années, on parlait d'autogestion. Ce n'est pas très loin du développement durable. Je crois que c'est vraiment ça, c'est rendre les gens plus responsables et surtout en capacité d'agir.
Oui. Et ça on le voit parce que vous, comme on a la chance de circuler pas mal donc, en France et ailleurs, mais que ce soit donc des communes comme Vincennes, comme j'étais dans le Gers avant-hier aussi, une autre commune comme le Séquès qui se trouve au sud d'Albi, quelles que soient les dimensions, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses très positives qui se font, mais il faut que ça fasse sens. Et c'est ça encore qui ne ressort pas. Donc ne vous démoralisez pas parce que c'est en train de monter. C'est en train de monter et ça monte de là-bas, c'est-à-dire de tous les citoyens que nous sommes les uns et les autres. Qu'est-ce que vous avez peut-être comme exemple, justement, communes qui ont parié sur la biodiversité ? On avait celle-ci. Je vous emmènerai tout à l'heure dans le Pas-de-Calais, mais qu'est-ce que vous avez comme exemple d'agenda 21 qui ont mis le paquet sur la biodiversité ?
Alors, il y a beaucoup de communes qui ont pris conscience que la biodiversité était importante. Parce que vous savez, il y a une espèce d'imaginaire dans les grandes villes qui ferait croire que dans une ville comme Paris, il y a juste des pigeons et des cafards. Je crois qu'au contraire, il y a une vraie richesse de biodiversité.
Abeilles viennent se réfugier d'ailleurs maintenant en ville.
Mais plus que réfugier, vous savez que le miel produit sur les toits de Paris et d'autres villes sont parfois d'une qualité très nettement meilleure. Que dans des zones complètement rurales.
Ils ne sentent pas le pot d'échappement, je vous rassure.
Non, je crois qu'ils sont tout à fait excellents. Et d'ailleurs, certains maires sont très, très fiers de leur miel et ils ont tout à fait raison. Je crois que donc, la première étape, tout le temps, c'est de cartographier. On a besoin de savoir. Et souvent, ça permet d'avoir une démarche comme les parcs régionaux. Par exemple, moi, j'habite dans un parc naturel régional. Il y a des gens qui mesure les choses, qui regarde, qui écoute, parce que c'est important qu'on sache ce qu'il y a autour de nous. C'est en regardant, c'est en connaissant qu'on a aussi envie de protéger. Évidemment, quand on ne sait pas ce qui existe, on n'a pas envie de le protéger. Donc, c'est toujours la première démarche. Et ensuite, la phase suivante, et ça qui s'inscrit pleinement dans l'agenda 21, c'est de définir des zones prioritaires. Une ville, on doit la concevoir comme un territoire rural. Il y a des endroits avec une biodiversité particulière qui a besoin d'être protégée. Et là, on a besoin effectivement de bien mesurer les choses, de protéger et d'adapter, enfin de faire tout le travail qu'il y a par rapport à ça. La phase suivante, c'est la gestion des espaces verts. Évidemment, toute ville a des espaces verts. On voit l'exemple rural d'un petit village à Mélé, dans un département dont je suis originaire. Mais je crois, d'une façon générale, les villes aujourd'hui font un travail plutôt de qualité. On pourrait parler de Montpellier, par exemple. Mais énormément de villes aujourd'hui, comme Paris, ont décidé d'arrêter d'utiliser des pesticides, d'utiliser toutes sortes de produits qui sont nocifs pour tout le monde, aussi bien pour les habitants de la ville que pour les gens qui y travaillent. Il ne faut pas oublier qu'il y a des jardiniers aussi, qui, quand on manipule, que la gestion de l'eau.
Il y a une charte d'ailleurs zéro phyto qui a été créée par le conseil régional en Bretagne, puisque vous parlez de la Bretagne et qu'on était à Mélé, et qui fonctionne très bien. Il y a de plus en plus d'adhérents. On voit aussi donc, les jardins partagés un peu partout. Le Grand Lyon, donc, qui aussi a fait énormément de choses. Chalon-sur-Saône, évidemment, on va en oublier plein. Mais c'est en route, ce mouvement-là.
Oui, il ne faut pas oublier dans cette affaire aussi les particuliers, parce qu'il y a beaucoup de végétation sur les balcons. Et chez les particuliers, souvent, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui considèrent que c'est une démarche environnementale. Alors là, c'est des ayatollahs.
Oui,
c'est bien, ils protègent, ils mettent aucun produit, etc. Mais il y a aussi l'excès inverse. Vous savez qu'un particulier qui n'est pas confronté à une relation financière trop immédiate avec les pesticides et autres produits de ce genre, bah, il va plutôt doubler la dose que va lui recommander la jardinerie. Donc il y a une ville comme Rennes, par exemple, ils ont fait une charte. Ils sont allés voir les jardineries. Il y a plus de 90% des jardineries consignées et qui maintenant sont engagées à conseiller, à faire des produits bio, etc. Donc, et c'est vraiment important en termes de qualité de l'air, bien évidemment. Donc là, il y a vraiment un point fort. Et vraiment aussi, il y a la question de l'eau. Et ça, c'est un point qu'on oublie souvent. C'est que, ben, encore une fois, comme Paris, mais bien plein d'autres villes, ont des nappes d'eau souterraines qui sont extrêmement importantes en termes de biodiversité, en termes d'environnement.
Donc on va protéger de plus en plus les captages qui ont été extrêmement délaissés pendant de très très nombreuses années. Les agences de l'eau, que ce soit celles de Loire-Bretagne, d'Adour-Garonne, de Seine-Normandie, pardon pour les autres, mais donc travaillent vraiment dessus et incitent maintenant, alors passent des conventions aussi avec, avec les agriculteurs, avec la population, pour protéger sa zone de captage, parce que bien évidemment, même dans une grande série du PIB, il vaut mieux avoir un mètre cube d'eau sale parce qu'au moins ça rapporte des sous derrière qu'un mètre cube d'eau propre. Mais non, il ne faut plus penser comme ça maintenant. Et on fait avec, avec la nature et non pas contre.
Je crois qu'il faut effectivement beaucoup insister sur, sur cette question de l'eau. Et j'avais envie d'insister particulièrement sur cette aventure des jardins partagés qu'on appelait les jardins ouvriers autrefois. D'abord parce que ça se développe assez rapidement. Il y a vraiment des démarches extrêmement intéressantes qui se sont mises en œuvre, notamment à Copenhague, à Helsinki, évidemment, les pays du Nord ont laissé assez avancer sur ces démarches, mais aussi à Chalon-sur-Saône ou au Grand Lyon. Enfin, il y a beaucoup de villes en France et il y a même une démarche que je trouve assez originale actuellement, qui est testée, je crois que c'est à Brooklyn. On a installé des jardins familiaux sur les toits d'immenses oui. hangars. Et même, il y a un projet de ferme hydroponique donc qui vise à une certaine autonomie alimentaire. Alors après, la question de plantes qui poussent pour nous nourrir sur des billes de polystyrène, tout ça. Bon, ça voilà, tout ça, ça interroge en même temps ces questions d'autonomie de la ville avec une ferme hydroponique, avec sur le toit des jardins familiaux qui sont plutôt dans des démarches évidemment bio. Tout ça nous ramène à la fois à une activité partagée, parce qu'on voit ce qui se passe entre les gens à ce moment-là, à une démarche de respect de l'environnement, de compréhension de la nature, des rythmes de la nature, mais aussi, d'une façon générale, à une forme d'autonomisation. Et on sait bien les difficultés sociales qu'on a aujourd'hui et l'important de se nourrir.
On va rester aux États-Unis avec Ben Harper.
CO2 mon amour, Denis Chessou.
Avec la résonance de Ben Harper, ce qui est quand même pas mal. Donc vous l'avez compris, cette émission en direct en compagnie de Gilles Béraud. Nous déclinons ce qui se fait et ce qui se fera de plus en plus demain, donc avec le président de ce fameux comité 21, qui s'occupe largement pour de rendre efficaces ces démarches d'agenda 21 sur le territoire, dans les entreprises ou bien au sein des associations. Je vous propose maintenant donc un autre exemple. On va partir dans une région où la biodiversité, ça n'a pas été simple, parce que c'est vraiment une région tout à fait industrielle avec énormément de pollution. C'est la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, ils ont été les premiers à s'occuper de ça. Il faut dire aussi qu'à une époque, ils ont eu la première présidente de région qui est verte, qui était Marie-Christine Blandin. Et tout ceci, après, s'est quand même accéléré. Pierre Radan aussi, d'ailleurs, a beaucoup travaillé sur le sujet à l'époque. Et là, on va retrouver Emmanuel Coe, qui est donc le vice-président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Et alors, c'est intéressant, là aussi, de voir cette biodiversité à travers un conservatoire faunistique dans votre région. Pourquoi l'avoir créé, Emmanuel Coe ?
Il nous manquait... par rapport à tout ce qu'on a entrepris en termes de stratégie pour de restauration, de préservation de la biodiversité, un outil. C'est-à-dire que, par exemple, on a un conservatoire botanique national qui est un outil absolument merveilleux et efficace, mais on n'avait pas le pendant pour la faune. Autant le conservatoire botanique a une notoriété, une crédibilité, une tribune qui est efficace et qui est réelle et qui est importante, la faune, ça reposait sur des associations qui font un boulot extraordinaire, mais qui manquent encore un peu de moyens, qui manquaient un peu de muscles, si je puis dire. Et donc, on a considéré que la faune ne devait pas être oubliée, le parent pauvre de cette biodiversité. Donc, on a lancé, mais en s'appuyant sur les associations de la région, en mutualisant leurs connaissances, leurs compétences, on a choisi de s'appuyer sur eux pour créer ce premier conservatoire faunistique régional.
Alors, qu'est-ce que l'on peut espérer dans un territoire nordiste donc, qui est extrêmement morcelé, quoi, pratiquement 15 000 morceaux ?
Ouais, 15 000 morceaux de Nord-Pas-de-Calais, ouais, tout à fait. Paradoxalement, c'est-à-dire qu'en termes de niveau quantitatif de biodiversité, on est dernier de la classe en France. Par contre, on a une biodiversité très très riche, on a 60% des oiseaux nicheurs qui sont en Nord-Pas-de-Calais, mais sur des milieux naturels très petits, et très peu nombreux. Donc il y a vraiment une urgence, un, de sauver ce qui existe déjà, et deux, de remailler, évidemment. Et donc le conservatoire faunistique fera le pendant un peu du travail du conservatoire botanique, mais sur la faune, où un, on travaillera évidemment sur l'état des lieux, sur l'acquisition de connaissances, sur la diffusion de cette connaissance, mais aussi dans l'accompagnement des acteurs pour la restauration et la renaturation du Nord-Pas-de-Calais.
Vous allez redonner de l'oxygène au monde associatif, au monde scientifique qui s'en occupe. Comment le grand public peut s'emparer, lui aussi, de la faune aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais ?
Ils peuvent s'en emparer. On a initié, comme dans d'autres régions, ce qu'on appelle un peu des sciences participatives ou des politiques, des dispositifs participatifs où on s'appuie sur la connaissance ou sur l'environnement des gens pour participer à des opérations d'acquisition de connaissances. C'est important parce qu'il y a une recréation de liens homme-nature et en ricochet, si je puis dire, nous, ça peut nous permettre, dans nos politiques régionales, de réajuster le tir le cas échéant. Vu que, par exemple, on a un appel à projet corridor boisé, peut-être que ces données-là nous permettront de prioriser, par exemple, ces corridors boisés.
Voilà, donc démocratie aussi présentative. Et ça, c'était Jean-François Caron de Los Angeles, dont on avait parlé donc abondamment, c'était au mois de janvier. Alors, à propos de Los Angeles, Gilles Béraud, aussi, peut-être des exemples, parce que ça fonctionne bien là-bas.
Oui, je crois qu'ils ont un bon sens du lien. Je crois que dans cette affaire de développement durable, c'est être capable de lier les choses. Et quand Los Angeles a mis en place son maraîchage biologique, ils en ont fait aussi une activité d'insertion sociale. Et ils ont mobilisé l'APSAC, une association pour la solidarité active, l'ensemble des acteurs. Ils ont créé de l'emploi, les gens se nourrissent mieux, respectent mieux la terre. C'est toujours chercher ces croisements de succès. Enfin, c'est ce qu'on fait au comité 21 entre nos quatre collèges, entreprises, collectivités, associations, etc. C'est toujours d'être capable de se dire, on met des acteurs différents autour de la table et on cherche plusieurs bénéfices. Et c'est rarement un seul bénéfice. Par exemple, à Salle aussi, en Alsace,
ils ont planté. Ça c'est très intéressant.
Ils ont planté des arbres fruitiers. Oui. C'est quand même extrêmement intéressant. D'abord, c'est extrêmement.
S2ALES. Salle, c'est le petit col de Salle en Alsace.
900 et quelques habitants, canton assez pauvre d'Alsace. Et évidemment, des arbres fruitiers, ils ont un aspect. C'est du végétal, c'est du CO2. Mais c'est aussi des fruits qu'on mange. Oui. Et c'est aussi des fruits qu'on mange dans les écoles. Et c'est des fruits, évidemment, biologiques qui, évidemment, dans l'espace public, ont une valeur symbolique et qui donnent envie aux autres.
Alors, on va continuer avec cette science participative. Et cette fois-ci, on reste toujours dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes pas loin de Los Angeles. avec Vincent Coé, qui est un des responsables du Centre permanent d'initiation à l'environnement. Et regardez ce que nous allons compter, là aussi, on mise sur la biodiversité.
Alors le contexte est un peu particulier, parce qu'en région Pas-de-Calais, le nombre de boisements est vraiment très très faible.
J'ai vu 8% de forêt.
Voilà, 8% de forêt, donc c'est un des plus faibles de France. Ouais. Et donc on a voulu étudier un peu quelles étaient les espèces qui pouvaient être indicatrices de ces taux de boisement, ouais, et lancer une étude. Alors habituellement on travaille avec les naturalistes, les spécialistes, et là on s'est dit on n'est peut-être pas assez. On est une région où il y a 4 millions d'habitants, nous sommes seulement à peu près 500 naturalistes dans la région, c'est quand même pas beaucoup. Et on voulait vraiment savoir quelle était la répartition exacte de l'écureuil dans cette région, et notamment est-ce que l'écureuil était quand même bien présent malgré un taux de boisement relativement faible.
Donc je suis citoyen naturaliste, qu'est-ce que je fais dans ce bois? Je me poste
Ce qu'on demande aux participants, exactement comme ce qu'on va faire là, on se promène. Alors ça peut être n'importe quel type de promenade, on promène le chien, on fait ce jogging, on fait une petite promenade en famille, mais on prend juste le temps d'observer dans le boisement, au détour d'un chemin, un petit écureuil roux qui se promène.
Ouais. Voilà, c'est pas très compliqué parce que vous m'avez emmené dans un coin où il y a des écureuils roux, parce que vous le saviez.
Donc ici, nous sommes dans un petit bois du bassin minier. Oui. Donc là, en plus, on est assez tôt le matin, donc ça devrait être bon pour observer. Ouais. La lumière est bonne.
Voilà, ça y est, allez, 30 mètres à peu près. On en a un, on en a deux. Voilà. Celui nous a repéré à tous les coups. Voilà. C'est une bonne ouïe, ça, l'écureuil?
Extrêmement bonne ouïe. C'est pour ça qu'on fait pas de bruit du tout. Hop, il saute sur le petit arbre là-bas. Tac. Typique, hein, là, les petits bons, regardez, hop. Alors ce qui est formidable avec l'écureuil, c'est ce qu'on voit là, il a la capacité, il nous a repérés, il ne s'enfuit pas vraiment, il se cache juste derrière le tronc. Mm-hmm. Et pour peu qu'on tourne un petit peu, hop, il se décale un peu et il reste caché derrière le tronc.
Et il y a un nettoyage de la queue extraordinaire chez l'écureuil.
C'est formidable.
Parce que c'est une sorte de balancier, ça lui sert de tout.
Alors, d'ailleurs, le nom écureuil, ça veut dire qu'il fait de l'ombre avec sa queue. C'est vrai que c'est un peu, les anciens pensaient qu'il s'abritait comme ça avec cette formidable queue en panache là, pour se faire de l'ombre. C'est pas le cas du tout, hein. Ça lui sert exactement à tout. C'est-à-dire à se déplacer, c'est un balancier.
Un gouvernail presque.
Un gouvernail, enfin, ouais. Ça sert aussi parfois pour amortir sa chute lors de certains sauts qu'il peut faire d'arbre en arbre. Les résultats de l'étude sont fabuleux.
Alors, qu'est-ce que ça donne?
Alors, on est vraiment extrêmement surpris. On a lancé l'étude il y a 2 ans. Alors, comme nous sommes en région Nord-Pas-de-Calais, on appelait ça l'étude Ch'ti-écureuil.
Bien sûr.
Donc, c'est une étude qu'on fait uniquement pour le Nord-Pas-de-Calais, mais qui existe aussi, montée par l'ONF et la SFEPM, Société française d'études et de protection des mammifères, au niveau national. Mm-hmm. On a vraiment voulu travailler sur l'écureuil du Nord-Pas-de-Calais. Donc, je te dis, ça a été lancé il y a 2 ans.
C'est le roux?
L'écureuil roux seulement.
C'est pour l'américain,
celui-là? Non, non. Justement, c'était le but de l'étude aussi. Voilà. C'est de voir si on rencontrait également de l'écureuil gris chez nous.
D'accord.
Là, c'est pas le cas. Alors, depuis 2 ans, les superbes résultats, on a à peu près 1000 données par an d'écureuils sur la région. Oui. Donc ça dépasse vraiment toutes nos espérances. Pour bien comprendre l'impact de cette étude, en 15 ans d'observation naturaliste, on avait recueilli 500 données seulement d'écureuils.
Et là, 1000?
Et là, 1000 par an. Et depuis 2 ans, nous sommes à 2000 données. On a vraiment là un très très bon outil de faire appel à nos concitoyens, parce que ça devienne des acteurs de l'observation naturaliste.
Et donc il y a une grille pour l'observation, on leur donne donc les trucs pour pouvoir observer et pouvoir valider après leur appréciation.
Voilà, alors d'une part à observer, c'est un animal qui est très facile à observer, ouais, très facile à identifier, c'est un des secrets aussi de la réussite, et surtout qui jouit d'une très très bonne image. On ne fait pas plus sympathique qu'un petit écureuil roux.
Non, ce serait par exemple du boa constrictor, ce serait plus compliqué peut-être.
En région Pas-de-Calais, ça doit être peut-être plus compliqué. Ceci dit, pour revenir, donc, hop, on vient d'observer 2 écureuils pendant notre promenade. Il suffit de repérer l'endroit où nous sommes. Ouais. On va sur Internet, on tape juste « ch'ti écureuil », on trouve sur le site. Et il y a un formulaire qui est très simple à remplir en ligne. Ouais. Et l'avantage de l'étude, une fois que le formulaire a été rempli, aussitôt notre donnée apparaît sur une carte.
Et donc vous faites avancer la science comme ça. Bon, bah écoutez, un grand merci Vincent Coé. Vous l'aimez pourquoi cet animal?
J'adore son petit côté sympathique. Le lutin roux des forêts, c'est vraiment ce qui me plaît en cet animal. Et surtout sa capacité, grâce à cette étude, a quand même colonisé des milieux qui ont été fortement marqués par l'homme. Et c'est un formidable espoir un peu en termes de biodiversité. C'est bien qu'on soit dans une région très peuplée, très urbanisée, avec de nombreuses infrastructures, on s'est rendu compte que l'écureuil roux, avec les boisements qui restaient, était encore bien présent.
Biodiversité, agenda 21, on mise dessus. Florence Herrero nous écrit, nous dit « Je suis coordinatrice de l'agenda 21 des écoles parisiennes dans mon établissement du 20e arrondissement et à ce titre, je peux témoigner du formidable impact qu'ont nos projets pour les enfants, sur les enfants à travers l'étude de la biodiversité et de sa mise en valeur. » Donc après, elle fait effectivement un peu tout un catalogue d'initiatives. Nous avons alors aussi Bruna qui nous dit « Peut-on partager sur Facebook, tenez, les agendas 21 ?»
Je crois que c'est effectivement un agenda 21, c'est une forme de réseau social. Ouais. Donc effectivement, ça peut se partager sur Facebook. Maintenant, je dois te dire qu'on a parfois un petit peu du mal dans ce monde du développement durable, en tout cas de la protection de l'environnement, à intégrer ces technologies. En tout cas, on a eu du mal. Je crois qu'il y a une vraie bascule qui est en train de se faire depuis quelques temps. On considère que ça devient beaucoup plus normal de faire appel à toutes ces technologies.
Mais parlez-nous d'un ou deux projets que vous avez là, qui est très intéressant là aussi. Alors là c'est votre autre casquette, mais ça revient quand même aussi presque au même en tant que président de cette association sur le développement durable et nouvelles technologies.
Bah, je crois qu'effectivement, de toute façon, avec 5 milliards de téléphones portables dans le monde, 2 milliards de PC, enfin, c'est le monde d'aujourd'hui. On est dans un monde qui est dans un monde de communication. Et pour ma part, je suis un peu énervé sur les questions de temps de transport. Je ne comprends pas comment une société peut passer autant de temps. Enfin, on est à plus de 30 minutes matin et soir en France, en moyenne. Dans les villes, c'est beaucoup plus que ça. Et moi, je considère que 20 minutes de temps de transport, c'est un temps acceptable, agréable même, c'est une transition. Jusqu'à 30, ça devient acceptable et 60 minutes, c'est insupportable. Donc, on lance une pétition. Parce qu'on pense que grâce aux technologies, on n'est plus obligé d'aller tous les jours travailler au même endroit, mais qu'on peut créer ce qu'on appelle des télécentres ou des lieux intermédiaires, pas chez soi, je ne crois pas au télétravail à la maison, mais en tout cas à moins de 20 minutes de transport doux de chez soi. Donc on lance une pétition, ça s'appelle MyOasis. On peut donner l'adresse.
Ah bon, ouais. Non mais attendez, on va la mettre sur le site de CO2, ça sera beaucoup plus simple, voilà. Parce qu'on n'arrive jamais à l'écrire quand on le dit.
Bon, bah, oui, c'est parfait, voilà. on gagne du temps. Et je crois que l'idée, c'est de se dire comment on peut faire gagner 1 million d'heures par jour en France. Ma conviction, c'est que c'est possible si on arrive, beaucoup d'entre nous, à travailler plus près, à être dans des transports doux, etc. C'est des questions de qualité de vie, mais c'est des questions d'environnement, c'est des questions d'alléger les choses. Et je crois qu'il y a vraiment, en plus, dans le fait de partager des lieux de travail comme ça, c'est aussi une question de vivre plus léger. Vous savez, c'est comme la voiture en ville, c'est une corvée. Mais si on commence à se dire... J'ai besoin de me déplacer, je n'ai pas besoin d'être propriétaire d'une voiture. Non seulement c'est mieux sur le plan financier, environnemental, mais c'est aussi une façon d'alléger son cerveau. Parce que moins on gère de choses dans la vie, bah plus le cerveau il est léger, plus les choses sont agréables. Et c'est à ça que sert l'Internet, le numérique, ces nouvelles technologies. C'est passer d'une économie, d'une mode de vie où on est propriétaire, on est des collectionneurs stressés, à une économie de la légèreté.
Alors je vous propose moi de faire une autre émission, je ne sais pas encore quand, avec vous Gilles Béraud, parce que là on parlera vraiment complètement de ces nouvelles technologies et de ce que ça peut apporter en matière environnementale et écologique, en mettant tout sur la table, hein, le positif et aussi le négatif. Moi je vous renvoie d'ailleurs à cet ouvrage que vous avez écrit aux éditions de l'Aube, qui s'appelle Développement durable 2.0 de Gilles Béraud, et puis aussi Vers un nouveau modèle urbain, donc ça c'est le comité 21, et ça donne énormément d'exemples. Exemple, hein, du quartier à la ville durable, c'est tout à fait formidable. Vous aurez les informations sur le site. Alors, dans notre petit agenda, qu'est-ce que l'on pourrait lire? Tenez, moi j'ai un numéro de Terre Sauvage. Alors là, évidemment, biodiversité à fond. C'est leur nouvelle formule du mois d'avril. Vous découvrirez des tas de choses sur le lilas, sur l'asperge, sur l'île où les éléphants sont rois, à savoir le Sri Lanka, où vous avez en fait cet animal qui relie deux traditions, c'est-à-dire bouddhistes et hindous, qui sont reliés par l'éléphant. Et c'est pas très simple, on sait qu'il y a quand même de sacrées tensions. Et puis je vous propose aussi d'aller tout de suite du côté de La Rochelle, parce qu'à La Rochelle ce week-end, vous avez une manifestation qui s'appelle Terre et Lettres. Bonjour Dominique Agnel.
Bonjour Denis.
Que va-t-il se passer à La Rochelle ce week-end? Je vois qu'il y a 5 thèmes extrêmement importants qui vont être déclinés.
Alors on est en plein dedans, c'est l'effervescence. Là je vous parle du bateau, du franchin du musée maritime. Et puis... un tas de thèmes qui vont être déclinés de la médiathèque de La Rochelle. Alors, on a les abeilles avec Henri Clément. On a aussi la pêche avec Frédéric Danhé, que vous connaissez bien, qui vient souvent chez vous. Ouais. On a également le vin. Ici, on est grand amateur de vin de pays charentais. Alors, on aura avec François Morel une thématique sur le vin naturel. Ah, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc.
Je le reconnais bien là, oui.
Et puis, Jonas Gilles Clément qui viendra nous parler du jardin planétaire. Et puis notre grand témoin, c'est Hervé Kahn, journaliste au Monde, pour parler de son dernier livre, L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Ben, nous, on est tout à fait d'accord.
Bon, alors Dominique, en fait, tout ceci, c'est pour essayer d'accompagner ce changement de civilisation dans lequel nous sommes.
Tout le monde veut changer le monde, finalement. Mais nous, on se dit, eh ben, à La Rochelle, on va voir ce qu'on peut faire pour notre quartier, pour notre région. Voilà, on réfléchit, mais on ne se prend pas au sérieux. Et la partie festive est aussi importante. Voilà.
Merci beaucoup, Dominique Agnel. À très bientôt.
Merci, Dominique.
Puis je rajouterai à la Farlède, ça se trouve près de Toulon, une manifestation, c'est la sixième du genre, qui est une foire donc biologique tout à fait intéressante également. Merci à Edwin Caron, à Kamal Salifou, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Inaza, à Valérie Ayestaraï qui réalisait l'émission, Muriel Pérez a choisi les disques, Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour, il y a aussi son propre site qui est très bien sur l'environnement en temps réel. On se retrouvera la semaine prochaine avec Claude-Marie Vadron, on verra pour les 25 ans de Tchernobyl. Nous irons découvrir un corridor biologique avec Jean-François Noblet. Et puis la tue du Mont Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Excellent week-end à toutes et à tous. Dans quelques instants, ce seront les liaisons heureuses. France Inter, il est 15h.